Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous et à toutes les amis et bienvenue à l'écoute de ce bulletin d'information. Les principaux titres ce jeudi. La position de la Bavière sur la crise migratoire est proche de la nôtre, selon Bohuslav Sobotka. Fin des mesures de sécurité renforcées en République tchèque et le premier groupe de réfugiés irakiens de confession chrétienne transféré en Tchéquie le 24 janvier. En visite à Amberg, dans l'usine numérique de Siemens, mercredi, le Premier ministre Bohuslav Sobotka s'est dit convaincu que la position de la Bavière relative à la crise migratoire et à l'accueil des réfugiés était plus proche de la position de la République tchèque que celle des autres pays de l'Europe de l'Ouest, y compris l'Allemagne. Si je regarde les positions des gouvernements des pays de l'Europe de l'Ouest, la Bavière fait partie des pays qui soutiennent sur le long terme une position plus proche de celle du gouvernement tchèque ou du groupe de Vichy. A déclaré Bohuslav Sobotka à l'issue de sa rencontre avec Horst Seehofer, le ministre-président de la Bavière. Les mesures de sécurité renforcées en vigueur en République tchèque suite aux attentats survenus le 13 novembre à Paris ne sont plus appliquées depuis le début de l'année. C'est ce qu'a révélé ce jeudi le ministre de l'Intérieur Milan Chovanec. Le social-démocrate a toutefois indiqué que les policiers restaient dans un état de vigilance accrue. Après les attaques de novembre dernier, la sécurité a été renforcée aux abords des centres commerciaux, des aéroports internationaux ainsi qu'auprès de l'ambassade de France à Prague. Durant cette période, il ne s'est rien passé, a tout simplement indiqué le ministre. Un premier groupe constitué de 27 réfugiés irakiens de confession chrétienne va être accueilli en République tchèque le 24 janvier. Le même jour, ils devraient rejoindre un camp de repos situé sur la localité d'Okraulik dans les proches environs de Jihlava en Vysotchina. Les réfugiés devraient y passer plusieurs semaines afin de suivre des cours intensifs de langue tchèque et de se familiariser avec la réalité tchèque, selon Jan Talafalant, le directeur de la fondation Generace 27. À la mi-décembre, le gouvernement tchèque a validé l'accueil d'un total de 153 personnes ayant fui l'État islamique et réfugiées dans des camps au Kurdistan irakien ou au Liban. 76% des ressortissants vietnamiens, 62% des Ukrainiens et 50% des Russes vivent en République tchèque, souhaitent y obtenir la résidence permanente dans le pays, selon une étude réalisée par l'Institut pour le Travail et les Affaires Sociales. Parmi les raisons invoquées par ces minorités voulant rester dans le pays, la sécurité, le système de santé ou encore les salaires. Une page de sport et de biathlon. Gabriela Soukalova a décroché la troisième place ce jeudi sur les 15 km de l'individuel à Ruhpolding en Allemagne, épreuve comptant pour la Coupe du Monde de biathlon. L'Italienne Dorothea Wierer a obtenu la victoire sur sa spécialité devant la Finlandaise Kaisa Makkarainen. La Tchèque, auteur d'une faute au tir et qui complète donc ce podium, conserve la tête au classement général et accroît même son avance sur la Française Marie Dorin, sixième de l'individuel. On termine avec la météo. Après une journée plutôt ensoleillée, le temps se couvre ce vendredi et ce malgré la fête des Halitsé. Il peut même neiger sur la Bohême tandis que la Moravie connaît quelques éclaircies. Les températures vont de moins 1 à 3 degrés pour ce qui est des maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information que vous proposait Pierre Ménian. La suite de notre programme, c'est maintenant et cela se passe en compagnie d'Anna Kubishta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Pierre Ménian pour son bulletin d'information. L'ambassade tchèque à Damas, dernière représentation diplomatique d'un pays de l'Union européenne en Syrie, pourrait servir de relais pour l'aide humanitaire occidentale. Les détails en début d'émission. Le Conseil du gouvernement pour les droits de l'homme a critiqué les conditions de détention des réfugiés dans les divers centres de rétention du pays. Une critique qui n'est pas nouvelle, loin de là. Et puis on partira à Humpolet dans la deuxième partie de notre émission. Bonne écoute de ce programme. Je vous le disais en titre, alors que la situation humanitaire en Syrie, en proie à la guerre civile depuis 5 ans déjà, est plus que jamais dramatique, l'ambassade tchèque à Damas, dernière représentation diplomatique européenne sur place, pourrait devenir le distributeur exclusif de l'aide humanitaire en provenance de l'Union européenne destinée aux Syriens. C'est en tout cas ce qu'a demandé la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, au ministre tchèque des Affaires étrangères, Lubomír Zaorálek, lors de sa visite à Prague lundi.
Tak se vlastně opakovaně projevil zájem vysoké představitelky.
Au cours de nos discussions, la représentante de l'Union européenne, Federica Mogherini, a exprimé à plusieurs reprises l'importance de notre ambassade à Damas. À l'heure actuelle, il est extrêmement difficile de pénétrer de quelque manière que ce soit en Syrie. Or, il y a aussi un besoin extrême d'aide humanitaire. Pendant cette rencontre, est née l'idée d'utiliser notre représentation diplomatique pour faire entrer cette aide humanitaire en Syrie. C'est l'unique possibilité. Maintenant, nous discutons des conditions concrète pour réaliser cette idée. De son côté, l'intérêt est clair et d'une autre, nous avons aussi clairement affirmé notre volonté d'apporter notre aide.
Le ministre des Affaires étrangères, Lubomír Zaorálek, s'est ainsi félicité de l'intérêt européen pour la présence diplomatique tchèque en Syrie comme relais de l'aide humanitaire plus que jamais nécessaire dans un pays où les besoins en nourriture et en aide médicale sont criants dans certaines régions, comme par exemple à Madaya, petite ville assiégée par le régime de Damas et ses alliés du Hezbollah libanais depuis juillet 2015. À l'heure actuelle, la République tchèque est le seul pays membre de l'Union européenne à encore avoir une ambassade en service depuis l'éclatement de la guerre civile en Syrie. L'ambassade tchèque, dirigée par Eva Filippi, a été chargée de sonder les besoins et les possibilités d'aide dans les régions les plus frappées par le conflit. Elle supplée également la diplomatie américaine, représentant les intérêts des citoyens américains le cas échéant. Pour Lubomír Zaorálek, au bout de 5 ans de guerre sans issue entre les partisans de Bachar el-Assad et l'opposition syrienne, aujourd'hui largement dominée par les groupes islamistes, la vision de l'Union européenne sur la situation a largement évolué face à cette impasse.
En Europe, il y a une prise de conscience du fait qu'on ne peut pas se permettre de répéter le scénario irakien. Là-bas, l'administration de l'ancien régime a été entièrement liquidée. Ce n'est qu'après coup qu'on s'est rendu compte qu'il était de ce fait très difficile d'unifier le pays et de former un gouvernement inclusif qui parvienne à gérer l'ensemble du pays. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il existe en Syrie une administration prête à nous aider, mais elle doit être intégrée au processus de résolution. Il faut discuter avec ces gens qui peuvent éventuellement nous aider à acheminer l'aide d'urgence. Il y a un consensus plus grand au sein de l'Union européenne sur le sujet et une plus grande volonté de compter sur ces structures.
Tak je ochota i použít tyhle struktury.
Sans jamais le citer nommément, Lubomír Zaorálek sous-entend que toute évolution de la situation en Syrie ne pourrait donc se faire sans une participation de Bachar el-Assad, en tout cas de son administration, longtemps persona non grata pour les représentants de l'UE. Face à la menace de l'État islamique, les opinions semblent avoir évolué et le chef de la diplomatie tchèque se félicite qu'elle se rapproche en partie de la position tchèque depuis le début du conflit. L'idée de l'ambassade tchèque à Damas comme relais humanitaire venant, selon lui, confirmer cette approche.
D'une certaine façon, on voit là se concrétiser ce que nous disons depuis le début. Nous avons toujours affirmé que nous considérons impossible toute solution politique sans le concours de l'actuelle administration. Elle doit être un partenaire dans toutes les discussions. J'en ai d'ailleurs parlé avec Federica Mogherini et elle m'a assuré qu'un consensus sur le sujet existe aujourd'hui au sein de l'UE. Les 28 sont prêts à adopter une position unique sur le sujet, que ce soit pour trouver une solution politique à la guerre en Syrie ou sur le rôle de l'UE à tenir. L'implication de l'ambassade tchèque à Damas en est l'une des preuves.
Prochaine étape de ce projet de relais humanitaire via l'ambassade tchèque en Syrie, des discussions afin de concrétiser au plus vite l'initiative visant à soulager une partie de la population syrienne démunie. Les conditions de vie des réfugiés dans les camps de rétention en République tchèque sont un sujet largement critiqué. C'est la raison pour laquelle le Conseil du gouvernement pour les droits de l'homme propose des changements dans l'approche aux migrants et d'autant plus à ceux qui sont encore mineurs. Les détails avec HBTA Ticha.
Biela Jezova, Drahonice et Vyšní Lhoty sont trois centres de rétention en activité en République tchèque. Si leur capacité d'accueil représente en tout 1392 places depuis le début de l'hiver, ces derniers sont presque vides. Selon les chiffres présentés par la télévision tchèque, seule une centaine de réfugiés y vivraient ce mercredi 13 janvier. Parmi eux, de nombreuses familles avec enfants. Et ce sont notamment les plus jeunes qui commencent à susciter des débats même au sein du gouvernement. L'année passée, le centre de Biela Jezova a fait l'objet de diverses critiques de la part des réfugiés, des organisations non gouvernementales ainsi que des autorités locales et européennes. La médiatrice de la République, Anna Shabatova, a visité à ce camp successivement en août et en octobre dernier. Dans un entretien accordé à Radio Prague, elle était revenue sur la question de la présence des enfants confrontés à des conditions de vie souvent difficiles.
J'ai constaté que la situation des enfants est très mauvaise et il faut dire qu'il y avait 147 enfants au mois d'août et j'ai appelé aux autorités qu'il faut changer la pratique, placer les familles avec les enfants dans cet établissement concret parce que cet établissement n'est pas capable de préparer les conditions pour les enfants. Nous avons, moi, comme mécanisme national de prévention, à recommander que les familles avec les enfants ne sont pas placées à Biela Jezova, mais à Brno, dans un centre qui s'appelle Zastavka ou Brno, où les conditions sont plus favorables.
Afin d'assurer des conditions plus dignes, le Conseil du gouvernement pour les droits de l'homme demande aujourd'hui de changer davantage l'approche du système envers les migrants. Le ministre des droits de l'homme, Jiří Dienstbier, poursuit.
Bien entendu, il s'est déjà produit un changement pour le mieux. Cependant, ces suggestions ont une valeur générale et je crois qu'il serait utile que le gouvernement en discute.
Les changements devraient toucher notamment les réfugiés mineurs non accompagnés, dont 55 séjournent actuellement en République tchèque. Selon le Conseil du gouvernement pour les droits de l'homme, certains parmi eux devraient être réunis avec leurs proches résidents dans l'Union européenne le plus tôt possible. La juriste Petra Kolova de l'Organisation pour l'aide aux réfugiés critique néanmoins les démarches administratives qui empêchent l'accélération du projet.
Rien n'a changé dans ce domaine et la réunion de ces enfants avec leur famille dure toujours très longtemps.
De plus, une autre question s'avère irrésolue, celle des mineurs n'ayant pas de famille sur le territoire de l'Union européenne. Un tel réfugié mineur non accompagné devrait être placé dans un centre pour enfants étrangers qui assure les services liés à sa protection et à son éducation, comme c'est le cas pour Rémi, originaire du Congo, 16 ans.
J'ai dit que je voulais étudier et ils m'ont donc trouvé le lycée de Troya.
Ce centre ne dispose néanmoins pas d'un nombre de places suffisant pour s'occuper de tous les mineurs concernés. Ceux-là sont alors souvent placés dans des établissements pénitentiaires pour mineurs avec de jeunes délinquants. Enfin, un nouveau projet appelé Děti na cestě, les enfants sur la route, a été lancé par l'Organisation pour l'aide aux réfugiés. Celui-ci vise à placer les mineurs non accompagnés dans les familles d'accueil dans l'attente d'une solution durable. L'assistant social de l'organisation, Tomáš Knězek, poursuit.
D'après la loi, les familles d'accueil sont préférables au foyer. Seulement pour ces enfants-là, personne n'y pense.
Selon l'ONG, les familles d'accueil s'avèrent ouvertes à cette solution. La réalisation du projet doit néanmoins faire face à plusieurs problèmes, dont notamment la qualification insuffisante de ces familles pour pouvoir accueillir un enfant étranger.
On passe à la deuxième partie de notre émission. Quand on dit Humpolets, on pense bière. C'est dans cette petite ville située dans la région de la Vysočina, le plateau tchéco-morave, que se trouve la fameuse brasserie Bernhardt, qui jouit d'une grande popularité depuis 25 ans déjà. Aujourd'hui, nous vous emmenons donc à Humpolets pour parler non seulement de bière, mais aussi de l'histoire de la ville liée au protestantisme dans les pays tchèques et d'un de ses compatriotes, Aleš Hrdlička, un anthropologue mondialement reconnu pour sa théorie sur l'évolution de l'homme. Reportage d'Alžbeta Tichá.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
Située à une vingtaine de kilomètres de Jihlava, Humpolets est une petite ville de 10 000 habitants, connue de nos jours notamment pour sa brasserie Bernhardt. L'histoire de la brasserie de Humpolets commence en 1597, où celle-ci est fondée par le seigneur de Heralet. Devenue bientôt une brasserie bourgeoise, elle prospère et s'agrandit jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avec l'arrivée du régime communiste, la brasserie est néanmoins étatisée et fait partie de différentes entreprises d'État. Abandonnée après la révolution de velours, elle risque d'être liquidée. Pourtant, lors de la privatisation, elle est finalement achetée, malgré son état délabré, par Stanislav Bernhardt, Josef Vavra et Rudolf Schmeichel, qui fondent la marque Bernhardt. Le porte-parole de la brasserie, Zdeněk Mikulášek, présente le parcours de cette marque depuis les années 1990.
Prvních 10 let bylo velmi...
La première décennie a été assez difficile. La brasserie était dans un état catastrophique et il fallait tout reconstruire. Mais les propriétaires avaient dès le début un objectif précis, essayer de faire l'une des meilleures bières sur le marché. Cela s'est manifesté tout au début quand la marque a triomphé à l'exposition internationale de la bière Pivex et grâce à la volonté de la brasserie de faire une bière de qualité, les clients ont commencé à la découvrir.
Aujourd'hui, la brasserie produit une quinzaine de bières avec ou sans alcool. Elle était aussi la première à venir sur le marché tchèque avec une bière de type ale, c'est-à-dire une bière obtenue par fermentation haute. Cette pivo Bernhardt est vendue dans les restaurants sur l'ensemble du territoire tchèque, mais aussi à l'étranger, comme le précise Zdeněk Mikulášek.
Nous exportons notre bière dans quelques 30 ou 35 pays du monde entier, non seulement en Europe, mais aussi en Amérique ou en Asie. On peut nous trouver au Japon, en Australie, en Israël, au Pérou, au Brésil, au Mexique. Il s'agit donc de destinations intéressantes.
Né à Humpolets en 1869, Aleš Hrdlička représente sans aucun doute la plus célèbre des personnalités de cette ville. À l'âge de 13 ans, pour échapper à une crise économique, il part avec sa famille aux États-Unis, le pays dans lequel ce fameux médecin et anthropologue passe la plus grande partie de sa vie. Après son arrivée à New York, il travaille dans une fabrique de tabac et étudie l'anglais dans les cours du soir. Cette activité difficile est à l'origine d'une suite de graves maladies qui ont, un peu ironiquement, changé sa vie pour le mieux, car après avoir découvert son talent, son médecin lui recommande de faire des études de médecine. En 1889, Hrdlička commence donc à étudier à Eclectic Medical College, puis il ouvre son propre cabinet de médecine. Ce n'est néanmoins que son travail dans l'hôpital psychiatrique de Middletown qui va influencer la suite de son parcours et tourner son intérêt vers la recherche. Kateřina Jančurová du musée Aleš Hrdlička poursuit.
Grâce à ce travail, il a découvert petit à petit l'anthropologie qu'il est allé étudier en France. Après son retour en Amérique, il a commencé à travailler à l'Institut national de pathologie à New York où il a effectué la plupart de ses recherches. Il a notamment étudié les anomalies de différents groupes de la population et il a fait de nombreuses recherches sur les Indiens d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale.
A dal potom se věnoval hojně výzkumu Indiánů Severní a Střední Ameriky. En 1903, il devient le premier curateur du département d'anthropologie physique au Musée national des États-Unis. Il formule ensuite sa théorie asiatique dans laquelle il dit que l'homme est arrivé en Amérique de l'Asie par le détroit de Bering. Ce n'est néanmoins qu'une autre théorie, voire même plus importante, qui a rendu son œuvre immortelle, Kateřina Jančurová.
Il est connu notamment pour sa théorie qui soutient que toutes les races humaines ont une origine unique. Cette idée dérangeait à l'époque l'Allemagne nazie, car Hitler essayait de propager son idée d'une race pure, et Hedlička en Amérique déclarait au contraire que les hommes ont une origine commune. Il était donc aussi contre l'opinion des savants américains que l'évolution de l'homme s'était effectuée parallèlement sur tous les continents. Il est venu avec l'idée que la race humaine venait à l'origine d'un seul et même endroit, de l'Ancien Monde, et donc que tous les humains ont une même origine.
Dans les années 1930, on crée à Prague le musée de l'homme Aleš Hrdlička. Depuis l'Amérique, Hrdlička soutient ses collègues tchèques, mais avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, ses œuvres ne peuvent pas y être publiées. N'ayant pas l'autorisation de rentrer dans sa patrie, il meurt en 1943 à Washington. À Humpolec, un autre musée, Aleš Hrdlička, propose de découvrir davantage ce grand personnage de l'anthropologie mondiale et ses théories, ainsi que les généralités sur cette discipline scientifique. Néanmoins, Hrdlička ne représente pas le seul compatriote de cette ville qui est devenue célèbre. Parmi les autres, il faut mentionner notamment le poète, journaliste et critique d'art Ivan Martin Jirous, dit Magor, une personnalité controversée et une grande figure de l'underground tchèque dans les années 1970. Enfin, à Kaliště, village voisin de Humpolec, est né aussi le célèbre compositeur Gustav Mahler. La ville de Humpolec possède encore d'autres curiosités qui méritent d'être visitées. Depuis près de 3 ans, les visiteurs peuvent découvrir l'ensemble de bâtiments anciens Zichpil. Appelé d'après le plus vieux quartier conservé dans la ville, qui date du XVIIe siècle et qui garde toujours un esprit un peu villageois, il est ouvert de juin à septembre et propose de découvrir une maison d'époque avec un ancien four à pain, la cité juive avec une synagogue nouvellement reconstruite ou l'une des plus anciennes églises protestantes dans le pays. Fondée en 1785, cette église a été construite suite à l'adoption de l'édit de tolérance, un document publié par l'empereur Joseph II et permettant la coexistence de plusieurs religions chrétiennes sur le territoire de l'Empire austro-hongrois. Chef du département du patrimoine culturel à Humpolec, František Kocman en dit un peu plus.
Původně asi tady ty evangelici sídlili na tom českém městě.
Tout d'abord, les évangéliques habitaient le quartier tchèque de la ville, mais l'édit de tolérance était dans les premières années de son existence assez strict et n'ont pas pu construire leur lieu de culte comme ils le voulaient. Il devait ressembler à une maison normale, il ne pouvait avoir ni des fenêtres voûtées, ni de tours, ni de clochers. En ce qui concerne les évangéliques de Humpolec, on leur a ordonné de construire leur église en dehors de la ville.
À côté de l'édifice religieux, nous trouvons le bâtiment de l'ancienne paroisse et école. Après le relâchement des règles au XIXe siècle, les évangéliques ont construit un nouveau temple dans le centre de la ville. František Kocman explique que c'est grâce à cet événement que cette ancienne église reste si bien conservée.
Toleranční kostelík jako ta nejstarší stavba, která tady zůstala zachovaná.
Cette église protestante représente le plus ancien bâtiment de la ville. Grâce au fait qu'elle n'ait pas été utilisée de manière continue, son mobilier reste bien conservé, avec peu de changements jusqu'à présent. Actuellement, il s'agit donc des intérieurs les mieux conservés pour une église protestante en République tchèque.
À quelques 5 km de la ville, un ancien château fort domine le paysage. S'il ne reste que des ruines aujourd'hui, celles-ci sont continuellement reconstruites. František Kocman, qui est d'ailleurs l'un des initiateurs de son renouvellement, revient sur son histoire.
Archéologues se domnívají, že nějaké sídlo
Les archéologues pensent qu'un bâtiment a été construit afin de protéger la mine d'or qui se trouve au-dessous du château dès le XIIIe siècle. Néanmoins, la première mention écrite date de la fin du XIVe siècle. Puis, au XVe et XVIe siècle, le château fort a été réaménagé. Mais le déplacement de la noblesse au manoir voisin situé dans le village de Herraletz a porté un coup fatal au château d'Orlik. Il a petit à petit perdu de l'importance et il a été abandonné à son sort.
Majetek hrálecké panství. Ten hrad postupně ztratil na významu a byl vlastně ponechán svému osudu.
En période estivale, le château est ouvert au public et propose divers événements culturels. Enfin, pas loin de Humpolec, dans la direction du château de Lipnice nad Sázavou, se trouvent trois petites églises presque abandonnées, mais non sans importance. Ces dernières, nommément les églises Sainte-Marguerite, Saint-Martin et Saint-Georges, toutes construites en style gothique, cachent de rares peintures du XIVe siècle.
C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez évidemment retrouver toutes les autres informations sur la République tchèque en français sur notre site internet. Vous le connaissez, le www.radio.cz/fr, mais aussi rendez-vous sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.